Bonjour et bonne année 2026. Je me permets un petit aparté pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et puis aussi pour vous dire que cet épisode-là, on l'a enregistré il y a déjà quasiment 6 mois et je m'excuse vraiment du retard pour le publier. C'est la conjonction d'un déménagement et d'un congé maternité qui m'ont tenu très éloignée de mon micro et de mon ordinateur, alors je m'en excuse. Mais néanmoins, cet épisode, je pense, vous intéressera et donc il était important de pouvoir le publier. Et j'ai trouvé un petit regain d'énergie en voyant une bonne nouvelle au niveau international pour la protection de la biodiversité grâce à l'ONU, et on a bien besoin de ce genre de nouvelles actuellement, et ça m'a donné un petit regain d'énergie pour finaliser et publier cet épisode. Du coup, je vous donne un petit peu plus d'informations au passage, puisque le 17 janvier 2026, un accord international est entré en vigueur pour protéger la biodiversité en haute mer, c'est-à-dire au-delà des océans qui sont situés au-delà de la zone de contrôle de la juridiction de chaque pays, et ça représente une énorme richesse de biodiversité et une énorme partie des océans, puisque c'est les deux tiers des océans sur Terre qui rentrent dans cette catégorie. Et donc ce traité qui s'appelle Biodiversity Beyond National Jurisdiction, biodiversité au-delà de la juridiction nationale, devrait aider de façon assez concrète pour protéger la biodiversité dans ces zones-là en faisant des études d'impact pour les explorations qui pourraient y être faites et un meilleur partage de ce qui peut y être découvert. Alors c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, il y aurait beaucoup à dire sur les pays qui ont ratifié, pas ratifié, ceux qui ont signé, etc. Je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse et peut-être qu'on fera un épisode sur la question à l'avenir, mais en tout cas, ça reste une très bonne nouvelle. On a peu de bonnes nouvelles en ce moment, donc je voulais vous la partager. Et sans plus attendre, je vous laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui, Océan et climat. Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, à l'occasion de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, on s'intéresse aux liens entre océan et climat.
Ils produisent la majeure partie de l'oxygène que nous respirons. Ils régulent le climat en absorbant l'excès de chaleur que nous produisons. Ils nous nourrissent. Notre survie, celle de la planète bleue, dépend de la santé des océans qui en couvrent plus des deux tiers. Mais les océans vont mal, de plus en plus mal. Comment les protéger ? C'est tout l'enjeu de la 3e conférence de l'ONU sur les océans.
Et si la Terre se réchauffe, l'océan, quant à lui, est en ébullition.
Après New York et Lisbonne, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan réunira du 9 au 13 juin des chefs d'État du monde entier. Les accords de Nice devront servir de cadre pour la recherche et la préservation des mers. Vaste programme.
Voici quelques-uns des thèmes qui vont être abordés pendant cette conférence des Nations Unies sur les océans. Et nous, on en profite pour s'interroger sur les liens entre les océans et le climat, sur ces océans qui se réchauffent et ce climat qui se dérègle, et surtout sur les conséquences que tout cela peut avoir sur nous. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles.
Bonjour.
Mais je me tourne d'abord vers notre invitée, Catherine Jandel, qui est océanographe géochimiste au LEGOS, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, et directrice de recherche émérite au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Catherine Jandel, bonjour, bienvenue dans le climat en question.
Bonjour.
On a souvent parlé des océans dans les épisodes du climat en question, sans y dédier pour autant des épisodes particuliers. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, est-ce que vous pouvez nous faire très rapidement un petit cours de rattrapage sur quel est le rôle des océans dans la régulation du climat ? Et puis après, on viendra aux conséquences du dérèglement actuel.
L'océan joue un rôle dans la régulation du climat par deux mécanismes principaux. Le premier, c'est un mécanisme purement physique d'échange d'énergie entre l'atmosphère et l'océan. Aux basses latitudes, autour de l'équateur, les tropiques, l'océan prend de la chaleur à l'atmosphère, qu'il va transporter par la circulation océanique aux latitudes les plus hautes, c'est-à-dire vers les pôles. Et là, il va restituer cette chaleur et cela va générer une circulation océanique parce que ces eaux qui sont au départ chaudes et un peu salées, qui se refroidissent, au fur et à mesure qu'elles se refroidissent, elles deviennent denses. Quand elles sont denses et qu'on arrive aux hautes latitudes, elles vont se mélanger avec les eaux qui sont en dessous sur des épaisseurs de 2 km. Hein. C'est vraiment des grosses cheminées de convection. Et ça va générer une circulation qui repart autour du monde, en longeant les côtes des États-Unis, du Brésil, et puis autour de l'Antarctique, qui va jusqu'au bout du Pacifique, comme ça, et puis qui revient. En fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce sont des échanges d'énergie entre l'atmosphère et l'océan, et qui sont véhiculés par les deux fluides, mais s'il n'y avait pas ces échanges-là et cet équilibre d'échange d'énergie, on n'aurait pas le climat qu'on a aujourd'hui.
Et alors déjà sur ce premier phénomène, la circulation physique, qu'est-ce que vous voyez comme changement aujourd'hui?
Il faut savoir que cette circulation s'est mise en place à la fin de la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a à peu près 10 000 ans. Et c'est elle qui a mis en place le climat aussi dans lequel s'est développée l'humanité, paléolithique, néolithique, et puis développement des civilisations qu'on apprend à l'école. Et donc, ce que l'on observe aujourd'hui par rapport à cet échange d'énergie, bien, c'est que l'humanité, en puisant de l'énergie fossile avec le pétrole, le charbon, en le brûlant, envoie les produits de combustion, c'est des gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique. Ce gaz a pour propriété de réchauffer l'atmosphère. Je reste juste sur les bilans d'énergie, là. Et du coup, comme l'atmosphère se réchauffe, une partie de cette énergie en excès, eh bien, elle est absorbée par l'océan, et on le mesure, la température des eaux augmente, et c'est ce que l'on mesure à partir des navires océanographiques, et on observe cette accumulation d'énergie jusqu'à 1 000 mètres de profondeur, maintenant à peu près dans tous les océans du monde, et on évalue que 93% de l'énergie en excès émise par l'humanité par les activités dans les usines, les transports, le chauffage des maisons, etc., et ces émissions de gaz à effet de serre, eh bien, cela, 93% de cette énergie est stockée dans l'océan et le reste à peu près sur le continent.
Donc heureusement que les océans sont là finalement, sinon le réchauffement climatique serait encore bien pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais déjà, avec l'augmentation de température que vous nous avez décrite, quelles conséquences ça a? Est-ce que c'est avant tout pour la faune et la flore océanique? On a entendu parler de difficultés pour la pêche, de sardines qui sont plus petites qu'avant. Est-ce que c'est aussi l'augmentation du niveau des mers? Comment ça se traduit concrètement?
Toujours sur la question purement de la circulation océanique, à partir du moment où on réchauffe les eaux de surface, ce réchauffement induit aussi une fonte des glaces continentales comme la glace qui est sur le Groenland, par exemple. Quand on arrive dans la zone la plus nord, déjà, ça risque de déséquilibrer cette circulation qui s'est mise en place depuis 10 000 ans. Voilà. Et là, pour l'instant, les modèles ne sont pas tous d'accord, mais ça va induire un changement important du climat si la circulation en question elle est perturbée. L'autre chose, effectivement, c'est que ce réchauffement des eaux de surface, ça induit ça se présente sous forme souvent de canicules marines, un peu comme nos canicules terrestres. Alors, ces canicules marines, il y en a partout. Et elles peuvent être très sévères, et en particulier pour les coraux. Les coraux, si on les met à des trop hautes températures, se produit un phénomène de blanchissement, c'est-à-dire il y a un corail, c'est une algue qui s'associe à un squelette calcaire, un animal qui a un squelette calcaire et qui construit le récif corallien grâce à l'alimentation que cette algue lui apporte. Et s'il fait trop chaud, l'algue elle part et le corail il meurt. Et donc c'est arrivé pour la Grande Barrière de Corail. Mais plus près de nous, la Méditerranée subit maintenant depuis plusieurs années des vagues des canicules marines très très importantes, genre 6 degrés de plus que la normale saisonnière au mois de juin au large de Marseille. Et du coup, ça génère et ça détruit de la vie, en particulier dans les 10-15 premiers mètres de la Méditerranée. La plupart des gorgones qui sont des sortes de coraux méditerranéens, ce ne sont pas exactement des coraux, mais eh bien elles sont 90% des gorgones peuvent être décimées par ces vagues de canicules marines. Donc la température, c'est un gros gros problème.
Alors là, on a parlé de température, circulation océanique, mais nous aviez dit qu'il y avait aussi un autre mécanisme qui est tout aussi important.
Le deuxième mécanisme de régulation du climat par l'océan, c'est le développement de la vie à la surface de la mer. Alors, ce développement de la vie, il faut faire l'analogie avec ce qui se passe sur Terre pour bien comprendre. Sur Terre, on a une végétation qui pousse grâce au mécanisme de la photosynthèse, qui en particulier transforme du CO2 en oxygène. Et c'est comme ça que poussent les arbres. Eh bien, en mer, c'est pareil. Vous avez des algues à la surface de la mer que vous ne voyez pas parce qu'elles sont microscopiques et qu'il faut des appareils très particuliers pour les détecter, mais qui sont très 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 nombreuses et qui au printemps, en été, dans l'hémisphère nord et puis évidemment à l'opposé dans l'hémisphère sud, se développent, soustraits du CO2 qui pénètre par l'interface air-mer. Après, on le soustrait et les algues le transforment ce carbone dissous en carbone solide, particulière, qui est brouté par des petites crevettes, qui va être brouté par des poissons. Et tout ça, ça induit une chaîne de vie au bout de laquelle d'ailleurs il y a l'humanité. Et ça crée aussi beaucoup, beaucoup de déchets. Parce que quand ces espèces vivantes, elles meurent, elles chutent dans la colonne d'eau et puis ça va générer de la matière qui tombe comme une neige marine et qui va aller au fond, sédimenter au fond des océans. Au cours de la chute, il y a des attaques bactériennes qui redissolvent un peu tout ça, mais il y a une fraction de ce qui est fixé en surface qui est sédimenté au fond. Et cette fraction sédimentée au fond, si on suit bien mon parcours, on a le CO2 qui pénètre sous forme de gaz, il est dissous, il est fixé, il devient des particules et il est piégé. Ça veut dire que le carbone, l'océan, par ce mécanisme, piège du gaz carbonique et le soustrait à l'atmosphère. Et en fait, tant par la circulation et la dissolution du gaz que par ce mécanisme de soustraction et d'enfouissement dans les sédiments de carbone, l'océan participe à la régulation du climat, puisque un des gaz à effet de serre puissant, c'est le gaz carbonique. Donc le fait que l'océan ait la propriété de soustraire ce CO2 et de l'enfouir, eh bien, on calcule aujourd'hui que entre 25 et 30% du gaz carbonique qui est émis annuellement par l'humanité est piégé par ce mécanisme de l'océan.
Alors, je fais une petite parenthèse, puisque vous avez justement travaillé en particulier sur ce deuxième mécanisme, avec beaucoup de mesures de terrain. Est-ce que vous pouvez en profiter pour nous décrire en quoi a consisté votre métier de façon assez pratique? Parce qu'on a beaucoup de questions d'étudiants, on a beaucoup de gens qui écoutent, qui sont en réflexion sur leur orientation. Donc, je pense que ça pourrait les aider aussi à voir les différents métiers, la multitude finalement de métiers qui existent dans ces sciences du climat, ces sciences de l'univers, ces sciences de l'océan.
Donc, je suis océanographe de terrain. Effectivement, c'est-à-dire que moi, j'écris des projets où je suis sollicitée pour participer à un projet de campagne en mer pour aller mener la. La plupart du temps, ce sont des études très pluridisciplinaires, puisque on l'aura compris, l'océan c'est un fluide, donc il y a des physiciens. C'est une solution chimique dans laquelle il y a les sels nutritifs, dont le carbone dissous dont je viens de parler. Et puis évidemment, il y a la vie qui se développe, donc il y a des biologistes. Et donc on s'associe pour aller étudier une région et comprendre quels sont les mécanismes de source d'éléments chimiques, de transformation dans la colonne d'eau par cette activité, en particulier de pompe biologique, on appelle ça la pompe biologique, c'est-à-dire de photosynthèse sous particules, soustraction, neige marine, enfouissement. On doit le quantifier partout dans le monde. Et pour ça, donc, on crée une campagne en mer, donc on dépose un dossier dans lequel on explique tout ce qu'on va faire, combien de temps de bateau il nous faut, pour faire quelle opération, sur quelle distance, à quel rythme de station, etc. Et une fois qu'on est sélectionné, on part à 40-45 personnes pendant 2 mois pour aller faire des prélèvements et faire des analyses qui vont nous permettre de quantifier ces processus. Et là, on va toucher du doigt mon métier à moi qui est d'être géochimiste. Les géochimistes sont des gens qui utilisent des éléments chimiques de la classification périodique pour en faire des traceurs qui leur permettent de quantifier des processus. Et je vais illustrer ça avec un exemple très simple. On a besoin de quantifier les particules, le flux de particules qui chutent en neige marine quand il y a la mort des organismes en surface, puisque c'est ça qui va séquestrer du carbone en profondeur. Ce flux de particules marines, on a besoin à la fois de la concentration carbone de ces particules. Pour ça, on va aller les filtrer, les prélever, les filtrer, les analyser. Mais on a aussi besoin de la vitesse de chute pour faire un flux. Une fois qu'on a la concentration, la vitesse, on multiplie l'un par l'autre, ça fait un flux. Et en fait, pour faire la vitesse, on ne peut pas aller à 3 km de profondeur partout dans les océans chronométrés. On est bien obligé d'avoir des méthodes indirectes. Eh bien, on utilise le couple uranium-thorium, qui sont des éléments chimiques présents dans l'océan, naturellement, et eux nous servent de chronomètre de vitesse de chute des particules. Je n'ai pas le temps de faire un cours là-dessus, ça prend 1 heure quand je suis en master, mais ça nous permet d'accéder à la vitesse de chute des particules dans tous les endroits du globe quand on fait ces mesures-là.
Alors merci beaucoup pour cette parenthèse. Donc un métier passionnant qui requiert beaucoup d'interdisciplinarité. Et alors parmi les nombreux scientifiques avec qui vous travaillez, il y a évidemment les modélisateurs du climat. On en a parlé dans plusieurs épisodes avec Gilles. Et justement là, comme on est dans une série d'épisodes où on s'interroge sur les liens entre les résultats de l'alerte scientifique, des modèles climatiques et les besoins de la société, vous, dans le domaine des océans, on en est où aujourd'hui? Quelles sont les attentes que vous entendez de la société? Et est-ce qu'aujourd'hui on est à un stade où on a assez d'informations ou est-ce qu'il y a encore besoin de beaucoup de nouvelles recherches?
Quand on est dans un programme dans lequel on accumule autant de données sur des éléments chimiques qui quantifient des processus, évidemment, on fait des réunions qu'on appelle data model, c'est-à-dire qu'on confronte les résultats des proxys, des mesures que nous faisons avec leurs avantages et leurs limites, aux modèles qui ne sont aussi que des outils, même si souvent une modélisation, ça paraît très séduisant, ils sont couffis d'erreurs, d'incertitudes, etc., etc. Et donc, l'arrivée des données ne peut qu'améliorer la qualité des modèles.
Donc ça, c'est pour la partie de votre travail avec les climatologues, les modélisateurs du climat. Comment vous travaillez avec la société ou comment est-ce que vos résultats sont utiles pour les décideurs publics?
Les décideurs, à part sur le mécanisme de la montée du niveau de la mer, qui résulte à la fois du réchauffement et du fait qu'il y a des stocks d'eau qui sont aujourd'hui stockés sur des surfaces continentales comme le Groenland ou l'Antarctique ou les glaciers de haute montagne et qui fondent. Donc ça génère une montée du niveau de la mer. Ça commence à inquiéter un petit peu les décideurs. Pas partout, pas partout. J'étais à Bastia récemment et la zone commerciale de Bastia est à côté de l'aéroport qui lui-même n'est pas très loin au-dessus du niveau de la mer. Moi, j'ai trouvé en atterrissant qu'on était quand même dans une zone un peu vulnérable. Et quand j'en ai parlé aux élus de Bastia, ça les a pas trop effleurés. Donc, c'est pas partout, c'est clair. Par contre, il y a un deuxième mécanisme qui préoccupe beaucoup les océanographes, c'est que ce gaz carbonique, quand il se dissout dans l'eau, il acidifie légèrement les eaux dans lesquelles il se dissout. Vous prenez une eau plate, vous mettez du CO2 dedans, elle s'acidifie. Eh bien, malheureusement, ça se passe aussi à la surface des océans. Et quand vous mettez de l'acide sur du calcaire, vous dissolvez le calcaire. Et donc, toutes les petites coquilles calcaires, les coraux, les huîtres, les moules qui sont à la surface de la mer sont attaquées par l'acidification. Et ça aussi, ça commence à préoccuper, au moins en milieu côtier et au moins pour l'ostréiculture, ça commence à préoccuper certains décideurs et industriels, etc., du littoral. Je dois dire que l'océan du large est beaucoup moins une préoccupation. Faut reconnaître que c'est pas du tout à la portée de l'individu qui va à la plage. Et donc, on parle beaucoup de choses que les gens ne voient pas et c'est très difficile de faire passer les messages.
Et alors pour terminer, par rapport à d'autres domaines dont on a pu parler dans les épisodes précédents, vous, pour les océans, donc vous estimez que c'est plutôt un problème des décideurs publics de se sentir concernés, de venir vers vous, les scientifiques, pour vous demander des informations, une alerte que vous avez déjà, comme vous venez de nous l'expliquer, ou est-ce qu'il y a aussi encore des domaines pour lesquels il faut faire plus de recherches, on ne sait pas encore assez dire, par exemple, je ne sais pas, répondre à une demande sur de combien va augmenter le niveau de la mer dans certaines zones, ou de pouvoir prédire des ouragans ou des tempêtes.
Sur les cyclones et les ouragans, les Français sont concernés par la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et donc eux et la Réunion, enfin tous nos départements d'outre-mer sont concernés par ces questions-là. Et la difficulté, c'est que Trump, là, il a coupé quelques robinets importants, mais on est quand même assez équipé avec les satellites, avec les bouées que l'on a dans l'Atlantique, avec les réseaux de surveillance qu'il n'est pas allé lui-même relever les bouées. Donc on peut encore avoir accès à ces données-là et on améliore en permanence grâce à ces données les modèles qui permettent de prévoir au mieux quand une tempête tropicale va se transformer en ouragan ou en cyclone. Tout ça, c'est la même chose en fait. C'est juste selon la région dans laquelle on est, on les appelle différemment. Et en particulier, c'est le travail des physiciens océanographes d'améliorer les paramétrisations de la turbulence, de la thermodynamique, de tout ce qui se passe avec ces réseaux de surveillance. Là, il y a une demande. Oui, elle est très sérieuse parce qu'il y a beaucoup de démolitions. Sur la montée du niveau de la mer, la demande commence à se faire pressante à certains endroits parce que s'ajoute à la montée du niveau de la mer le phénomène de submersion marine qui n'était pas aussi douloureux avant, mais comme le niveau de la mer a déjà monté d'une vingtaine de centimètres dans les derniers 120 ans, ça a fini par devenir plus visible et ça le sera de plus en plus. Et c'est quoi une submersion? C'est très simple. Quand il y a une dépression, le mot dépression atmosphérique, ça veut dire qu'il y a moins de pression d'air. La colonne d'air au-dessus de la mer pèse moins lourd. Du coup, le niveau de la mer monte naturellement en réponse au fait qu'il y a moins d'air qui lui pèse dessus. Et ça peut monter de 10, 15 cm selon la dépression. Et on arrive à la côte, donc la mer, elle est déjà 20 cm plus haut que pour le grand-père. Et puis, quand il y a en plus cette montée due à la dépression, en particulier quand il y a une dépression, il y a une tempête, donc il y a des grosses vagues. Et là, il peut se produire le mécanisme de submersion marine, c'est-à-dire que là, on attaque des maisons ou on amène du sable dans des jardins qui n'étaient pas concernés avant. Et là, sur certains littoraux, comme celui du golfe du Lion, on attaque des routes, etc. Sur le Lavandou aussi, j'ai entendu des émissions de radio qui se préoccupaient de ça. Et en Bretagne Sud, il y a des maisons, 7 maisons qui ont été démolies parce qu'elles étaient soumises trop aux submersions. Donc si, c'est une préoccupation aujourd'hui très importante, plus ou moins prononcée selon qu'on est sur une côte de falaise ou selon qu'on est sur une côte de plate, bien sûr.
Oui, et d'ailleurs, on peut peut-être illustrer ce dialogue entre décideurs publics locaux et les scientifiques, puisque vous, vous êtes impliqué dans un projet justement de dialogue entre ces communautés pour pouvoir aider à la décision et à l'adaptation dans la région Occitanie, c'est ça?
En fait, on monte un groupement de recherche d'experts du climat en région Occitanie, c'est-à-dire Toulouse et Montpellier, pour les grandes métropoles, avec des spécialistes à la fois du climat, à la fois de la biodiversité, de l'économie, des épidémies, etc., pour se donner les moyens de faire passer les messages scientifiques de façon plus efficace et à une maille régionale aux décideurs, aux ONG, aux EPCI, aux associations. Typiquement, là, on est saisi pour un appel d'offres et une étude de marché par le Conservatoire du littoral du golfe du Lion, justement, sur la montée du niveau de la mer. Faut produire un récit, c'est pas nous qui allons le produire, mais ils nous sollicitent pour l'expertise scientifique sur le récit qui va être produit. Donc on est sur un schéma d'adaptation et d'atténuation aussi, mais à l'échelle régionale, la demande, elle va être, je vais caricaturer, mais est-ce qu'on fait une digue? Est-ce qu'on laisse courir en reculant les maisons ou en les retirant ou en retirant une route? Ce qui a déjà été fait entre Sète et Frontignan, il y a une route qui a été retirée, et enfin, elle a été déviée. Et le béton est resté, mais la dune a déjà recouvert. Alors que la mer attaquait la falaise, comme une falaise, elle attaquait le béton de la route. Donc voilà, donc sur ces questions-là, nous c'est le Gréco, Grec-Occitanie, on est là pour répondre aux questions pratiques.
Ouais, donc ce dialogue permet quand même d'aboutir à des changements très concrets sur des projets d'infrastructures. On avait d'ailleurs dédié un épisode à la question des infrastructures résilientes récemment. Mais alors, ce dialogue, ça m'amène aussi, et c'est là où on avait commencé cet épisode, cette conférence des Nations Unies sur les océans, puisque ce n'était pas une conférence scientifique en tant que telle, évidemment, mais il y avait dans les objectifs cette idée de faire dialoguer les communautés, notamment la communauté scientifique a été représentée. Qu'est-ce que vous, vous en retenez de cette conférence?
J'aurais eu un petit peu de mal à parler de mes réactions personnelles puisque je n'y ai pas assisté, comme beaucoup de collègues, parce que une fois que ces conférences se mettent en place, c'est quand même beaucoup dans les mains des Nations Unies, des diplomates, etc. Et on sait qu'on a un rôle un peu mineur. Maintenant, j'ai eu des retours comme quoi, effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui étaient tournées vers ce qu'on appelle l'économie bleue. Le président Macron a essayé d'obtenir plus de signatures pour avoir un moratoire pour l'exploration des grands fonds, mais les principales force qui était là et qui poussait, c'était quand même des forces de lobby pour obtenir de faire de la fertilisation, de l'alcalinisation, pour régler tous les malheurs de l'océan, alors que les malheurs de l'océan, c'est le CO2. Le CO2, faut arrêter de l'émettre. Le meilleur atome de carbone, c'est celui qui reste dans le sol. On sait, il y a eu des rapports de l'Académie des sciences, des textes écrits par des scientifiques pour dire, on ne pourra pas régler les problèmes de l'océan en cherchant à le guérir, il faut arrêter de le rendre malade.
Eh bien, arrêtez de rendre nos océans malades, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine Jandel, d'avoir été avec nous. Et je me tourne maintenant vers Sylvestre et Gilles pour la deuxième partie de cet épisode. Alors, Gilles, je me tourne d'abord vers toi, du côté des modélisateurs du climat. Comment est-ce que vous, vous abordez ces questions des océans qui jouent, donc on l'a dit, un rôle très important dans la régulation du climat? Quel rôle ça joue? Comment vous les intégrez dans vos modèles?
Bon, ben Catherine, elle a très bien expliqué le rôle physique de l'océan. Moi, avec mon regard et mon recul de paléoclimatologue, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, l'océan joue un rôle fondamental de régulateur climatique, à la fois parce que, comme l'a dit Catherine, il absorbe 90% du rayonnement et qui va en fait le rediffuser sous forme de courants et d'organisation des courants de surface et de profond. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à très bien comprendre dans les années peut-être 70-80 avec un très grand océanographe qui s'appelait Wally Brooker, qui a expliqué comment marchait en gros la circulation thermohaline. Et du coup, l'océan, donc c'est un énorme régulateur climatique, mais c'est aussi un géant au pied d'argile. C'est-à-dire qu'on peut montrer qu'il y a des signes de dérégulation. Alors, par exemple, pour des transformations fulgurantes comme celles qu'on est en train de connaître, un signe de dérégulation sur lequel beaucoup de chercheurs s'excitent là actuellement, c'est le fait que est-ce que le transport de chaleur dans l'océan Nord-Atlantique, qu'on appelle l'AMOC, Atlantic Meridional Ocean Circulation, ça veut dire en anglais, est-ce qu'il n'est pas en train de déjà bouger? Alors, on a beaucoup de mesures, c'est quelque chose qui a une variabilité interannuelle, c'est-à-dire que ce transport de chaleur des eaux chaudes et salées de l'équateur et des tropiques vers les hautes et moyennes latitudes, hein, c'est ce qui fait que c'est ce qui explique le Gulf Stream, puis la dérive nord-atlantique pour aller encore plus loin au nord. C'est donc une courroie, une partie de la courroie de transmission de régulation thermohaline qui est très sensible et on commence à voir et à mettre en évidence le fait que ce transport-là baisse. Ce qui peut avoir des conséquences assez importantes, en particulier pour l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est un premier point qui est très important. Et alors, quand tu me demandes qu'est-ce que moi je peux apporter, c'est une question tout à fait pertinente. Qu'est-ce que je peux apporter de plus que Catherine concernant cette question-là? Eh ben, c'est le fait que, comme j'ai dit, l'océan, c'est un géant au pied d'argile, au sens aussi où les zones où on forme de l'eau profonde qui vont tapisser les fonds océaniques, c'est des très petites zones où on a à la fois de l'eau très froide, donc haute latitude, et très salée. C'est-à-dire, en général, dans les zones de banquise, les banquises, c'est de l'eau, les banquises sont constituées d'eau douce, donc il y a des rejets de sel importants. Et ces zones-là sont en général proches des calottes de glace qu'on a, le Groenland et l'Antarctique. Et dans le passé, ce qu'on a mis en évidence de façon très claire, c'est que quand ces calottes de glace rejettent des icebergs, eh ben, elles vont amener de l'eau douce dans ces zones qui sont des zones de convection, normalement de l'eau très froide et très salée. Et donc elles vont inhiber cette convection, les eaux vont devenir trop douces pour que le phénomène de convection verticale se fasse et qu'on continue à tapisser les eaux profondes. Et le passé relativement récent, c'est-à-dire sur des dizaines de milliers d'années, montre des événements qu'on appelle de Heinrich parce que c'est l'étudiant qui, au cours de sa thèse, a montré ces événements, des événements de bascule assez rapide de ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Donc c'est vrai que l'océan, qui est à la fois un grand régulateur, il a des faiblesses. Et donc pour ce qui est de l'Anthropocène, ces signes de faiblesse, on les voit à travers le transport méridien de circulation dans l'Atlantique Nord. Et dans le passé, on a vu que ça pouvait effectivement varier relativement rapidement.
Donc ça, c'est une première partie du problème. Mais on a parlé donc de deux phénomènes avec Catherine. Il y a aussi un impact très important sur le cycle du carbone.
C'est deux problèmes assez différents. Il y a un premier problème qui est que j'ai expliqué, Catherine l'explique très très bien, comment fonctionne la dynamique de l'océan. L'océan a un autre rôle. C'est-à-dire que l'océan, le cycle du carbone, c'est le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, mais le carbone, il est essentiellement dans l'océan. Donc, c'est en fait le grand réservoir de carbone, c'est l'océan, et l'atmosphère, c'est un petit ballon, quoi. Et donc, c'est très important de comprendre comment marche le cycle du carbone et comment il se répartit entre l'océan et l'atmosphère. Alors, il se trouve que l'océan, à sa surface, va pouvoir pomper du carbone atmosphérique. Alors, ça, c'est très important de le comprendre. Quand vous émettez aujourd'hui deux molécules de CO2, hein, on brûle des combustibles fossiles, on émet du CO2. À chaque fois que vous émettez, en gros, hein, deux molécules de CO2, il y en a une qui va effectivement se stocker dans l'atmosphère et nous poser un problème, et l'autre qui va être en fait prise en charge par la nature, c'est-à-dire stockée dans la biosphère, soit continentale, soit marine. Mais ce chiffre-là dont je vous parle de 50%, il n'est pas figé dans le marbre. Alors c'est en particulier, je vous conseille de le lire une fois dans votre vie, le rapport de dernier Assessment Report du GIEC du groupe 1. Vous verrez dans ce rapport, la figure 7, ça vous montre que suivant qu'on gère bien ou qu'on gère mal, cette pompe-là, le fait qu'il y en ait 50% qui soit pris en charge par la nature, elle peut varier. Et si on gère mal, c'est-à-dire si on déforeste beaucoup, par exemple, et donc on stocke moins sur les continents, ou si on réchauffe tellement que l'eau de surface réchauffe, et plus l'eau de surface océanique est chaude, moins elle est apte à pomper du CO2. Donc les deux côtés, si sur le plan continental on déforeste, par exemple, ou si on réchauffe trop rapidement, ce qui est en train de se faire, hein, la surface des océans, eh ben, l'océan, il est moins apte à pomper du CO2. Et donc la pompe naturelle se casse la gueule. Et donc la figure 7 du rapport du GIEC pour le WG1, ce qu'elle vous montre, c'est que dans les scénarios les pires, on termine à la fin du siècle avec une pompe qui, au lieu d'être à 50%, eh ben, elle est à 35%. Ça veut dire que 65% des 100% de molécules émises se stockent dans l'atmosphère à la place de 50%. Donc l'océan a un rôle très important de régulation du CO2 aussi.
Merci beaucoup Gilles. Je pense qu'entre ton intervention et celle de Catherine Jandel, on aura bien compris ces différents phénomènes et on poursuivra dans de prochains épisodes l'analyse de leurs conséquences, en particulier pour les activités économiques ou comme la pêche par exemple. Sylvestre, je me tourne vers toi parce que je voudrais quand même qu'on termine sur cette conférence de l'ONU sur les océans, puisque c'était ça qui nous avait donné envie initialement de faire un épisode dédié à cette question. Qu'est-ce que toi tu en retiens? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces grandes conférences finalement qui, comme les COP, suscitent souvent beaucoup d'espoir et puis parfois aussi quand même un certain nombre de déceptions.
C'est vrai qu'à chaque réunion de ce type, même pour les COP, les conférences des parties dans le cadre de la Convention climat, il y a souvent des observateurs ou des citoyens, des militants d'ONG qui entonnent le refrain que oh, c'est toujours du blabla, qu'on est toujours déçu par les résultats. On voit la conférence sur les océans, c'est vrai que les résultats sont très minces par rapport aux enjeux et que donc il faudrait faire autre chose. Les océans montrent bien qu'il n'y a pas d'autre moyen que cette diplomatie du climat, de la biodiversité aussi, des ressources naturelles dont on a tous besoin pour traiter les problèmes. Les océans notamment parce que bah, il y a les eaux internationales. Et dans les eaux internationales, par définition, tout le monde a le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit par un traité qui aurait été signé et qui serait respecté. Et là, on voit bien que il n'y a absolument aucune autre possibilité que le travail diplomatique à l'échelle mondiale pour obtenir des engagements et des politiques, des décisions, des mesures de l'ensemble des États de la planète qui ont les moyens d'intervenir dans les eaux internationales, que ça soit pour les pêches, pour la pollution marine, pour peut-être demain l'exploitation minière des fonds marins, sur tous ces sujets. Or, un cadre international qui permettrait d'avoir des politiques de protection des ressources naturelles, de protection du climat, pas de salut. Et donc, les déceptions qu'on peut avoir au sortir de telles réunions doivent non pas être oubliées, mais être prises comme uniquement le signal que bah c'est difficile et qu'on n'arrive pas à ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'autre chemin. Et on voit que dans les eaux territoriales, on a des questionnements qui sont du même type, notamment parce que bah, la géopolitique nous dit que le rapport des forces entre les États plus puissants et puis des États qui ont des eaux territoriales, comme les États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, mais qui sont trop pauvres pour imposer l'intérêt de leur population, voire dirigés par des personnels politiques corrompus qui vont préférer sacrifier l'intérêt de leur population à des avantages bah, pour le clan qu'ils dirigent. On le voit notamment pour les accords de pêcherie avec la Chine ou la Russie en Afrique de l'Ouest. Là aussi, on voit bien qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'autre chemin que la coopération internationale, le travail pour signer des traités et évidemment ensuite pour les faire respecter. Et c'est pas très enthousiasmant, c'est très souvent décevant, mais la petite musique comme quoi il faudrait par des actions autres, type individuel ou chacun dans son coin, obtenir des résultats. C'est une petite musique qui ne mène à rien, qui n'est pas du tout alternative au travail des États, des gouvernements pour obtenir les meilleurs traités internationaux possibles pour protéger l'océan dans toutes ses dimensions physiques, pollution, pêcherie, ressources naturelles.
Besoin donc d'interdisciplinarité et de multilatéralisme pour protéger nos océans, ça va être ce qu'on va retenir de cet épisode. Merci beaucoup à tous les trois et comme d'habitude, un grand merci à Fabrice Etifier, Alexandre Carrier, Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison, avec les moyens du bord. Pour suivre tous nos épisodes, abonnez-vous sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de recommandations pour de prochains sujets, voire si vous voulez nous donner un coup de main, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou par email, leclimatenquestion@ecomail.fr. Et je vous donne rendez-vous après la pause estivale pour un prochain épisode. D'ici là, bel été à toutes et à tous.